Avant 75, je ne connaissais pas du tout ce qui se passait en informatique pour la lettre. Donc, je voudrais faire un tout petit historique, simplement de l'évolution des installations centrales d'abord. Alors, comme vous le savez, il y a une date un petit peu charnière au LAL qui a été l'installation du VAX. Mais avant ça, on avait donc deux grandes activités que je connais, le contrôle de DCI et puis le fameux PEPRE qui était donc au BUL et qui était basé sur du matériel contrôle data. Ça, c'était, ici, vous avez un PDP-11, donc c'était typiquement le matériel qui a été utilisé pour la construction de DCI. Ensuite, le VAX est arrivé, donc j'ai retrouvé dans mes cahiers la date à laquelle effectivement ce VAX est arrivé. C'est donc, comme vous, ici je vais agrandir cette partie-là, on voit que c'était en juillet 83 et le VAX est arrivé. Au passage, on voit dans les notes que j'ai prises qui étaient les acteurs de cette chose-là. Il y avait Bernard Bouquet qui m'a aidé à démarrer ce VAX et puis François Richard, donc en envoyant des serres, par exemple la CERNLIB qui venait du CERN. Et vous voyez d'autres acteurs que vous connaissez sans doute, du genre René Brun, avec qui donc j'ai pu discuter à ce moment-là pour justement pouvoir installer un VAX le plus possible en état de marche le plus vite possible. Ensuite, la période qui a suivi a été une période où, à partir de ce VAX, on a considérablement augmenté la puissance centrale en installant un cluster. Donc, Jean-Pérez Jorba était un ardent défenseur de cette politique. Et ici, vous voyez qu'on est rapidement passé à un cluster où il y avait plusieurs VAX ensemble. À côté de ce cluster, pendant toute la période donc, des années 85-90, il y a eu un déploiement considérable autour, en particulier donc, le réseau local qui s'est beaucoup diversifié et toutes les applications qui étaient autour. En particulier, une des choses qui n'est peut-être pas très bien connue, c'est qu'il y a une grosse activité au niveau de l'informatique, qu'on pourrait dire administrative, du côté du traitement de texte, où il y a eu un gros effort de fait et qui était un petit peu précurseur à cette époque-là par rapport à ce qui pouvait se faire ailleurs. Et puis, surtout aussi au niveau de l'informatique administrative, très rapidement, on a installé sur le VAX des programmes du genre la gestion des missions. Et je me souviens de Cécile Carèche qui était une ardente, qui a promu ça de façon très, très forte, parce qu'elle sentait bien que les physiciens soutiendraient l'équipe technique autour du VAX et qu'en utilisant cette machine, ils pourraient bénéficier de ce soutien technique, ce qui a été effectivement le carré. Et donc, là, vous voyez cette période, là, on peut considérer qu'elle a été jusque vers les années 2000. Et puis maintenant, comme vous l'avez sans doute entendu beaucoup, on est à l'ère des grilles. Et donc, on installe un nœud actuellement dans la salle de machine de ce qu'était le VAX avant. Et donc, vous voyez, la différence maintenant, c'est qu'on a donc, je pense, une centaine de serveurs dans cette salle. Sachant bien sûr que chacun de ces serveurs n'a aucune commune mesure avec la puissance du seul VAX qu'on a installé à l'époque en 83. Donc, je voudrais faire aussi un petit historique des postes de travail. Donc, dans l'ère pré-VAX, le poste de travail était donc les cartes perforées donc, qui étaient utilisées. Vous voyez, là, il y en a une où on voit le mot LAL ici, LALDUF en fait, hein, qui veut dire que c'était Joël Le Duf, un run de Joël Le Duf. Et on a beaucoup utilisé l'Univac qui était juste en face de l'autre côté. Donc, l'autre périphérique de l'époque, c'était l'ASR33. Donc, je vous laisse écouter. Ça, c'était les premiers systèmes de stockage. Hein, donc, c'était le ruban perforé. Vous aviez à peu près, je pense, à 10 octets par seconde, quand même, ce qui était assez rapide, mais vous pouviez donc, comme ça, stocker vos données. Et on a longtemps travaillé comme ça. Annie pourrait me le dire aussi. où on a stocké, on lisait donc sur un ruban perforé, on éditait son source sur le ruban perforé, on dimpait l'exécutable et enfin, on le rechargeait dans la machine pour pouvoir l'exécuter. Au moins, on savait ce qu'on faisait, quoi. Ensuite, l'évolution des terminaux. Vous voyez là, j'ai simplement voulu faire une petite évolution. C'est pas très lisible comme ça si je le commande pas un petit peu. C'est-à-dire qu'on a eu trois sortes de terminaux de postes de travail, plutôt, excusez-moi. Le terminal du genre VT120. On a aussi eu beaucoup des stations de travail, en fait. C'est quelque chose aussi qu'on a eu tendance à oublier. On a eu jusqu'à 40 stations de travail à l'époque au laboratoire. Ensuite, il y a eu la période du terminal X, que vous voyez ici, là, symbolisé par ça. Le LAL a été pendant assez longtemps, comme beaucoup d'autres labos, évidemment, hein, c'était un peu la même évolution partout, dominé par le terminal X. Et puis, l'ordinateur personnel, comme vous le savez aussi maintenant, donc, a remplacé ce terminal X. Et ici, on est arrivé à peu près à moitié-moitié entre les ordinateurs portables et les ordinateurs en fait, fixes. Donc, mais si on revient en fait à ce... Vous voyez que les premiers ordinateurs personnels en fait sont arrivés quand même assez tôt au laboratoire, sous la forme des Macintosh au départ, qui se sont répartis, eux, plutôt du côté administratif. Et puis après, ont été, pas remplacés, mais complétés par toute une flotte de PC maintenant. Et donc la grande tendance, vous voyez, c'est de tendre vers le poste de travail en fait sous forme de l'ordinateur personnel. J'ai voulu faire une petite diapo sur les développements et j'ai été un petit peu embêté. Je veux dire, qu'est-ce que je pourrais faire là? Je peux pas décemment lister tous les développements qui se sont faits pendant cette période. Donc je vais au moins rechercher quelles sont les manips auxquelles on a participé. Et puis en faisant ça, je me suis aperçu petit à petit que finalement, on a participé absolument toutes les expériences du laboratoire, et parce que celle qui manque ici, Céleste ou Nemo, en fait, on y a participé aussi. Hein. Donc, ce transparent-là, il est pour montrer que vraiment, on a participé à toutes les expériences du laboratoire. Alors, j'ai voulu mettre, je vais très vite, hein, j'ai quelques événements plus ou moins arbitraires hein, qui jalonnent un peu cet historique. Donc l'installation du VAX en 83, comme je l'ai évoqué. Ensuite, le début de l'enseignement a été juste sur les talons de l'installation du VAX. Et pour nous, c'est quelque chose d'important, cet enseignement qu'on a fait au cours des années depuis cette époque-là. Vous voyez ici, j'ai retrouvé dans mon cahier une promo. Je ne sais plus, mais quelqu'un va pouvoir nous dire quelle date c'était. Parce que vous voyez en bas à droite, ici j'ai agrandi, donc vous trouvez... Hein, quelqu'un qui est passé récemment directeur de recherche d'ailleurs, et donc il était spécialiste du graphique comme vous pouvez le voir là, mais je ne pense pas qu'il a continué à faire ça. Donc je suis désolé, je n'ai pas retrouvé tous les physiciens qui sont passés entre nos mains, entre guillemets, mais il y en a beaucoup, et dans cette salle même, il y en a vraiment quelques-uns qui se reconnaîtront. Un autre événement important, à mon sens, a été la session plénière à CHEP 92 qu'a fait Christian Arnaud. C'était sur la programmation objet qui était très à la mode à ce moment-là, et c'est lui qui l'a fait en session plénière de CHEP. CHEP étant la plus grande conférence qui traite du computing en physique des hautes énergies. L'installation de la vidéoconférence en 1994, ici au LAL, a été impulsée vraiment par le démarrage à la fois de Virgo et de Babar ici et au laboratoire. Et ça veut dire qu'on a été assez précurseurs de ce côté-là et ça ne s'est jamais démenti de ce côté-là. Et puis, on a accueilli ici des manifestations relativement prestigieuses comme EPIX, qui est une sorte de club des gens qui gèrent toutes les grandes installations informatiques dans notre discipline. Et donc, on a eu une édition qui s'est déroulée ici. Une autre manifestation, c'est EPVIS, qui était donc les gens qui s'occupent de la visualisation au niveau vraiment de la discipline. Un workshop CMT aussi. Je ne peux pas commenter toutes ces choses-là, mais le cristal du CNRS de Christian Arnaud. Vers la même époque, on a eu... le fameux, j'en discutais juste avant, le Memorandum of Understanding qu'on a signé avec Atlas en fait pour fournir donc ce logiciel CMT pour Atlas. Et puis, donc, le dernier jalon, à mon avis, significatif, enfin, il y en a d'autres, hein, j'ai pas voulu tout faire, là, c'est le démarrage, donc, de ce nœud d'une grille de calcul qui a commencé l'année dernière ici. Alors, là, je voudrais passer très, très rapidement un petit clip que certains d'entre vous connaissent déjà, puisque j'ai déjà passé à un CEIAC que j'ai pas pu retrouver exactement lequel, du début des années 90, et qui fait du coup un petit peu partie de l'histoire de l'informatique au LAL. Ce que j'ai fait de plus là par rapport à la première édition, c'est que je l'ai traduit, donc je l'ai sous-titré de façon à ce que tout le monde puisse le comprendre. Donc je vous laisse le regarder, ça dure 5 minutes à peu près.
Copy the last 30 years at this location at 1 month intervals.
Excuse me, Jill Gilbert is calling back.
Great, whatever.
Hi Mike, what's up?
Jill, thanks for getting back to me. Well, I guess that new grant of yours has been damping your literary abilities. Rumor has it that you just put out the definitive article on deforestation.
Aha. Uh-huh. Is this one of your typical last minute panics for lecture material?
No, that's not until,
4:15.
It's about the effects that reducing the size of the Amazon rainforest can have outside of Brazil. I was wondering if it was something necessary, but,
Yes?
It would be great if you were available to make a few comments. Nothing formal. After my talk, you would come up on the big screen, discuss your article, and then answer some questions from the class.
And bail you out again? Well, I'll see if you squeeze it in. You know, I have a simulation that shows the spread of the Sahara over the last 20 years. Here, let me show you.
Nice. Very nice. And what's the map of the Amazon area during the same time? It's pretty easy to go.
Yeah.
Your mother called again to remind you to pick up the birthday today.
Ce qui serait évidemment intéressant, ça marche là. Oui. Ce qui serait intéressant évidemment, c'est de savoir ce qui s'est passé vraiment depuis. Est-ce qu'il y a eu des progrès au moment où je l'ai montré? Vous voyez là, la date est encore marquée. Là, c'est 1987. C'est un clip qui a été fait en 87 et qui, si on analyse les données dont il parle, est sans doute en 2012. Quoi. Il y avait 25 ans à peu près de projection comme ça dans l'avenir. C'est sûr que vous avez vu qu'il y a un certain nombre de technologies qui ne sont pas encore là. Hein. L'analyse du langage naturel avec son ordinateur, ce n'est pas encore tout à fait ça. Par contre, il y a un certain nombre de choses qui ont beaucoup avancé. La vidéoconférence, donc, ça marche effectivement à peu près comme ça d'ores et déjà. Et puis, il y a un certain nombre d'autres choses, comme retrouver un article en donnant un nom approximatif. Google vous suggère d'autres noms. Alors, ça m'étonnerait qu'il suggère le nom d'un autre scientifique, mais enfin, quand même, il y a eu beaucoup de... Et par exemple, Google Earth, là-dessus, ils n'y pensaient même pas, mais peut-être que ce serait quelque chose qui les aurait aidés, là, dans leur cas, pour faire de la géographie. Donc ce sera intéressant sans doute de repasser ça dans 10 ans maintenant et voir effectivement qu'est-ce qui a été de nouveau accompli au niveau informatique. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. J'ai simplement à la fin un petit clip qui fait un petit générique sur tous les gens qui ont fait l'informatique de ce laboratoire, enfin du service informatique, hein, c'est assez limité pendant donc ces maintenant 25-30 dernières années.
Merci Christian.
Attends la fin.